France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment la société pèse-t-elle sur les individus? C'est notre série cette semaine et aujourd'hui, nous évoquons le legs de ce courant de pensée appelé le structuralisme, son reflux et certains regrets actuels à propos de ce reflux. Quatrième épisode, faut-il ressusciter la notion de structure sociale? Claude Lévi-Strauss a laissé une marque indélébile sur les sciences de l'humain. Et cette marque est inséparable de tout un mode de pensée qui, dans les années 50 et 60, avait mis au jour des structures dans à peu près toutes les grandes activités humaines et en particulier dans l'usage du langage. Le structuralisme, tel était le nom de ce mode de pensée. Pourtant, le structuralisme a été mis en question dès les années 70 et de manière toujours accrue, et ce pour sa trop grande rigidité et sa difficulté à force d'identifier des invariants, à penser le changement, le nouveau, à penser le fait même qu'il y ait de l'histoire dans la vie humaine ou de l'historicité, comme disent parfois les philosophes. La notion de structure serait-elle en train de revenir à présent dans les sciences sociales face à tous ces savoirs parcellés, fragmentés, déployés depuis une quarantaine d'années? Y aurait-il un désir de repenser le social dans sa totalité, de retrouver de grands invariants et de grandes lois de l'évolution en réduisant ce que le philosophe Claude Lefort appelait l'inconnu de l'histoire et ce faisant de replacer les humains au sein de la nature et de tous les animaux? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à distance depuis Lyon, Philippe Corcuff, sociologue et philosophe politique, professeur à Sciences Po Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié en 2012 aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé « Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des savoirs » et en 2019 chez Armand Collin, Théorie sociologique contemporaine, France, 1980-2020. Merci aux équipes de France Bleu Lyon pour ce duplex. Dans ce studio, je reçois aussi Gisèle Sapiro, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Ne pouvant évoquer toutes vos publications, je renvoie seulement à votre dictionnaire international Bourdieu, paru au CNRS en 2020. Enfin, bonjour Christophe Darmanjat.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université Paris. Cité, c'est bien ça. Votre démarche scientifique est évoquée notamment de manière élogieuse par Bernard Lahire dans son ouvrage récemment paru aux éditions La Découverte, Les structures fondamentales des sociétés humaines, ouvrage qui précisément évoque un désir actuel de retotalisation du savoir en sciences sociales et de retour vers le concept de structure. Vous nous direz ce que vous, vous en pensez.
Dans une science historique, donc, qui par définition ne connaît jamais une répétition des phénomènes qui soit à contexte constant ou contrôlable, les preuves sont toujours tributaires d'un contexte singulier, du contexte singulier dans lequel on observe les phénomènes, soit directement, soit sur document, dans la méthode historique. De là découle une première propriété fondamentale qui est la multiplicité irréductible de leur théorie. Pluralité théorique. Et de même, le caractère que Max Weber appelait idéal typique de tous les concepts qu'elles emploient. Par conséquent, on a tort de déplorer le foisonnement ou l'entrecroisement des théories sociologiques, par exemple, puisque la diversité de l'argumentation est liée à un dosage différent des méthodes historiques ou quantitatives qui sont toujours appliquées à des comparaisons entre cas singuliers.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre le sociologue Jean-Claude Passeron dans une conférence donnée en 2000. C'était une archive de l'Université de tous les savoirs. Jean-Claude Passeron est l'auteur d'un livre en 1991 intitulé « Le raisonnement sociologique ». Est-ce que dans cette archive sonore, Jean-Claude Passeron donne l'essentiel des raisons pour lesquelles le structuralisme a un petit peu reflué? Il évoque la nécessité d'une pluralité théorique, Est-ce pour cela que le doute s'est peu à peu installé depuis une quarantaine d'années à propos des notions d'invariants, de lois définitives entre les humains, de structures ? Gisèle Sapiro.
Alors, on peut faire remonter les critiques du structuralisme bien avant, hein, les années 60. On a reproché, vous l'avez évoqué, au structuralisme son manque d'historicité. Donc, c'était les critiques marxistes, c'était Sartre aussi. Et puis, y a aussi eu les attaques de l'individualisme méthodologique, de l'acteur rationnel. Donc, on reprochait au structuralisme de considérer les individus comme agis plutôt que agissant, et de ce point de vue-là, l'objectivisme structuraliste rejoignait, on peut dire d'une certaine manière, le marxisme et aussi le freudisme, c'est-à-dire de réfléchir aux contraintes qui pèsent sur les individus, aussi évidemment à Durkheim, qui utilise moins la notion de structure qui s'est développée après. Et en même temps, une démarche scientifique est obligée de dégager des tendances générales, hein, des régularités, sinon il n'y a pas de science. Donc on peut que constater et décrire la diversité du réel. Or, il peut y avoir pluralité théorique, il peut y avoir un paradigme, ce que nous a appris Kuhn, et on peut avoir des débats théoriques. La pluralité, elle n'est pas forcément, elle peut être divergente, elle peut être discutée. Je pense que le succès du structuralisme, parce qu'il faut revenir à ça, c'est qu'il a porté justement à l'époque, au moment où les sciences sociales s'institutionnalisaient à l'université, mais aussi étaient mises en cause, confrontées aux sciences de la nature, un nouveau paradigme qui permettait de penser leurs spécificités et une nouvelle méthode, une méthode relationnelle qui n'était pas essentialiste, pas substantialiste, c'est-à-dire qu'ils pensaient pas que les choses sont ont un sens inhérent, que pratiquer le tennis c'est noble par définition, mais que la signification en fait sociale vient des écarts différentiels. C'est ça l'apport, hein, de la linguistique structurale, c'est les écarts différentiels, puisque le structuralisme est né d'une belle rencontre entre deux exilés à New York, entre Roman Jakobson, le linguiste, et Lévi-Strauss, donc anthropologue français exilé. Et c'est la rencontre avec Jakobson qui a été déterminante pour Lévi-Strauss, qui a transposé à l'anthropologie cette réflexion en termes de système d'écart différentiel. Et je pense qu'aussi, ce que Lévi-Strauss a fait en introduisant ça, c'était une remise en cause de l'ethnologie française qui était très prise dans l'histoire coloniale, donc lui a donné une sorte de portée beaucoup plus universelle qu'elle n'avait auparavant.
Philippe Corcuff, je crois que pour vous, le livre de Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique de 1991, est assez décisif, et il remet en question l'idée qu'il y ait des invariants, des lois décisives invariantes dans les sociétés humaines. Est-ce que vous maintenez que c'est de cette manière qu'il faut en effet réfléchir ?
Ben, il faut voir comment on envisage. Si on utilise une notion qu'a d'Henri Atlan, le biologiste, qui a emprunté à Ludwig Wittgenstein l'idée de jeu de connaissances qui est dérivé de jeu de langage. Il y a différents jeux de connaissances qui peuvent être la biologie, l'écologie, la sociologie. Le propre de l'évolution des jeux de connaissances des sciences sociales, c'est d'appréhender le réel sous l'angle socio-historique. C'est une propriété des jeux de connaissances sociologiques, ce n'est pas une propriété du réel, parce que le réel, on a accès à lui par la science, toujours par médiation conceptuelle. Donc, le propre, pour Jean-Claude Passeron, le propre des concepts sociologiques qui vont rendre compte de ce réel, c'est d'être, comme il dit, analogique. C'est-à-dire qu'il va créer un contexte de comparabilité entre des contextes historiques, sociaux, très différents. Mais il ne pose pas des identités.
Vous pourriez, je suis désolée, mais tout ça, oui, est très difficile. Là, tout à l'heure, là, j'ose pas vous interrompre tout le temps, mais beaucoup de gens ne connaissent pas bien les sciences sociales. La notion de paradigme relationnel, analogie plus qu'identité. Est-ce que vous pourriez expliquer disons, peut-être avec un exemple ou des mots un peu différents. Je suis désolée de vous demander ça, mais il y a eu beaucoup de concepts sociologiques durs là qui viennent d'être énoncés depuis 5-10 minutes.
Oui, mais par exemple, si vous utilisez la notion de révolution ou d'État, cette notion, elle va rendre compte de choses extrêmement différentes. Est-ce que, quand on parle d'État, le régime incarné par Louis XIV, ou l'État aujourd'hui en France, ou l'État en Russie, est-ce que c'est la même chose? Ce que nous dit Passeron, c'est que c'est pas la même chose, c'est pas une identité. Le concept d'État nous permet de créer un cadre de comparabilité entre des contextes différents.
D'accord, j'ai compris, d'accord.
Donc, les concepts sociologiques sont analogiques, alors qu'on a tendance à penser qu'ils créent une identité. C'est parce qu'on parle d'État qu'on va considérer que c'est la même chose.
D'accord.
Donc, le registre de la sociologie serait analogique. Ça crée, évidemment, ça change beaucoup de choses. Et donc, à partir de là, il y a un pluralisme théorique irréductible, qui n'est pas du tout un relativisme, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas tout se vaut, mais les différents concepts qu'on va utiliser vont nous orienter dans des pistes différentes, vont créer des cadres de comparabilité différentes, et donc les concepts d'État, d'individu, de révolution, etc.
Bon. D'accord. Donc l'idée qu'il y ait, il y a quand même une unité conceptuelle, mais qui doit accueillir une extraordinaire diversité, faisant que tous les éléments dedans sont analogues et pas identiques. Alors je voudrais demander maintenant à Christophe Darmanjat si cette position théorique qui réfute l'idée d'invariant strict dans l'évolution des sociétés, c'est aussi quelque chose, une position qui est la vôtre. Il faut arrêter de chercher de l'identique tout le temps.
Alors moi là-dessus, je suis tout à fait convaincu par les arguments de Bernard Lahire, qui sont d'ailleurs, enfin il le dit lui-même, il n'est pas le premier à les donner. Hein, quelqu'un comme Testard, par exemple, les défendait déjà, et d'autres avant lui.
Alors attendez, Bernard Lahire, on va y venir.
Pardon,
là, je voudrais qu'on fasse un peu l'histoire.
Il n'y a pas de souci, mais c'est un des sujets.
Et en effet, aujourd'hui revient cette idée qu'il faut au contraire retrouver un peu la notion d'invariant. Nous allons en parler. Bernard Lahire offre un exemple.
Il y a deux aspects, je crois. Est-ce que la notion d'invariant est contradictoire avec celle du fait d'étudier les variations? Et on pourrait dire a priori bien oui, et en fait, si on y réfléchit, on peut tout à fait penser que non, et que c'est justement à la fois en étudiant, l'ensemble des variations. Par exemple, moi, je me suis intéressé à la domination masculine dans les sociétés humaines. Ben, on s'aperçoit à la fois qu'il y a un ensemble de variations qui est considérable et évidemment extrêmement intéressant, et en même temps qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit jamais. Par exemple, la domination féminine.
Voilà, ça s'est jamais
vu. Ça s'est jamais vu dans aucune société.
Il n'y a pas de société matriarcale.
Non,
c'est une invention.
Non. Oui. Je suis pas le premier à le dire. Enfin, je ne fais que répéter ce que les gens. Voilà. Alors, des fois, on utilise le terme de matriarcat dans un sens très étendu, au sens pas de domination masculine marquée. Mais enfin, à ce moment-là, on finit par plus très bien savoir de quoi on parle, quoi. Mais en tous les cas, une société où les femmes auraient dirigé les hommes et auraient pu contraindre les hommes globalement comme les hommes contraignent les femmes dans 90% ou plus des sociétés humaines, ça, on l'a jamais vu, par exemple.
Mais pour reprendre le problème.
Pour finir, c'est si on veut comprendre ce qui se passe, il faut à la fois expliquer pourquoi on ne rencontre jamais certaines configurations, et donc pourquoi il y a des invariants, et pourquoi en même temps il y a des tas de choses qui varient au sein d'un espace restreint.
Donc quand vous dites cela, est-ce que vous dites quelque chose de différent de Philippe Corcuff? C'est-à-dire, de la domination masculine, il y en a toujours ou presque, vous avez l'air de dire qu'il y en a toujours, mais ce n'est pas du même, c'est de l'analogue. Il y a quand même suffisamment de différences entre tous les cas pour dire que ce n'est pas tout le temps exactement la même chose. C'est quelque chose avec des variétés, et donc les choses sont analogues et pas identiques.
Mais bien sûr, mais ça c'est le cas dans toutes les sciences. Quand on dit un mammifère, on sait très bien que les mammifères recouvrent des espèces différentes et que dans chaque espèce, il n'y a pas un chat qui est exactement comme le suivant, et qu'un chat n'est lui-même pas le même que ce qui sera dans 5 minutes, etc. Donc la science, ça consiste toujours à être capable de savoir ce qu'on peut abstraire, ce qu'on peut simplifier pour faire des catégories et pour justement essayer de penser des lois.
Alors à tout seigneur, tout honneur, nous parlons du structuralisme. Nous allons entendre quelques mots de Claude Lévi-Strauss, mais mis dans la bouche de Riad Kera, qui lit un extrait du livre de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, de 1955.
l'ensemble des coutumes d'un peuple est toujours marqué par un style. Elles forment des systèmes. Je suis persuadé que ces systèmes n'existent pas en nombre illimité et que les sociétés humaines, comme les individus, dans leur jeu, leur rêve ou leur délire, ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qu'il serait possible de reconstituer. En faisant l'inventaire de toutes les coutumes observées, de toutes celles imaginées dans les mythes, celles aussi évoquées dans les jeux des enfants et des adultes, les rêves des individus sains ou malades et les conduites psychopathologiques, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique comme celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes réelles ou simplement possibles apparaîtraient groupées en famille, et où nous n'aurions plus qu'à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées.
Claude Lévi-Strauss ici dit que les systèmes qui organisent nos vies, nos coutumes, n'existent pas en nombre illimité. Il y a donc quelques grands modèles. Et finalement, c'est quand même ça l'axiome premier du structuralisme. Gisèle Sapiro, cette conviction, est-ce qu'elle a disparu à un moment donné dans les sciences sociales ?
Ah non, je pense pas qu'elle ait disparu. Elle a été combattue, mais elle existe toujours et dans différentes disciplines. C'est un rapport de force, c'est une lutte hein, dans les disciplines. Mais il y a quand même, l'invariant veut pas dire l'identique. L'invariant veut dire, c'est pour Lévi-Strauss, l'invariant c'est la relation. Donc on a eu l'exemple de la domination masculine, cette relation féminin-masculin qui n'est pas d'ailleurs ancrée dans le biologique. Ça c'est très important. C'est une représentation du monde. Bourdieu a écrit un livre aussi sur la domination masculine, qui est son livre peut-être le plus structuraliste, parce qu'il a aussi beaucoup critiqué le structuralisme à partir de la logique de la pratique, de l'idée que en fait les acteurs n'ont pas des systèmes dans la tête. Il reproche en fait au structuralisme de faire comme si les acteurs agissaient d'après des règles ou des modèles intériorisés.
Mais là, néanmoins, j'ai l'impression que vous répondez à une autre question que celle que j'ai posée. Je voulais vous demander, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on retrouve, et nous venons d'en parler, il y a plutôt de l'analogue que l'identique, etc. Mais est-ce que le nombre de choses que l'on retrouve constitue des systèmes en nombre limité ? Je veux dire par là, on trouve de la domination masculine, mais est-ce qu'on peut dire que la notion même de domination peut avoir dans l'histoire des formes en nombre illimité, avec une créativité extraordinaire de la domination qui ferait que Lévi-Strauss aurait tort. Des structures qui expriment de la domination, des systèmes ne seraient pas en nombre limité. Il y aurait au contraire une illimitation du nombre de possibilités pour des systèmes de domination. C'est ça que je voulais vous demander.
Ouais, je n'entends pas ça de la même façon. D'accord. Pour moi, c'est les systèmes, les modèles qu'on peut extraire. Donc, par exemple, la domination masculine, qui sont en nombre limité. Les manifestations que ces systèmes peuvent revêtir sont en nombre illimité, de même que le langage. C'est toute la linguistique structurale dit on peut produire un nombre infini de phrases, mais c'est à partir de certaines un nombre limité de structures en fait. Voilà.
D'accord. Donc vous dites que les systèmes, Lévi-Strauss dit qu'ils n'existent pas en nombre illimité, mais vous dites que leurs visages, peuvent être en nombre illimité. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Corcuff ? Est-ce que la domination est un système qui peut produire vraiment des visages extrêmement multiples, infinis ?
Le problème du texte qui a été lu de Lévi-Strauss, c'est que on peut hésiter entre deux sens de méthode structurale. Soit on pose un tableau systématique du tout et on peut créer l'ensemble des possibles. Bon, et c'est la tentation. Soit on a un rapport beaucoup plus localisé et humble à la méthode structurale. On peut penser que on va penser des variations à partir d'invariants, mais ces invariants ne sont pas une propriété du réel. C'est une forme de méthode.
C'est-à-dire ce qu'il dit, en effet. Lévi-Strauss a des propos très clairs en ce sens. Ce que vous voulez dire, c'est une méthode.
C'est une méthode pour appréhender des variations, mais c'est, l'invariant est n'est pas une propriété du réel. On peut pas dire qu'il y a une invariant dans le réel, mais c'est une propriété de l'idéal type. On va dire que on va construire une certaine idée de la domination masculine. Ça va être un point d'appui méthodologique, et après on va observer des variations. Mais ce point d'appui, c'est un outil de méthode. C'est pas une propriété du réel, et c'est le risque, disons, de beaucoup d'usages, et on en reparlera du livre de Bernard Lahir, c'est qu'il y a une confusion entre les propriétés du réel et les propriétés des concepts qu'on utilise, des modes de connaissance qu'on utilise.
Et donc la notion d'idéal type, je souligne auprès de nos auditeurs que nous l'avons étudiée à propos de Max Weber hier dans Avec philosophie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Darmanjat ? Les invariants ne constituent-ils que des outils théoriques, ou bien vraiment ils existent dans le réel et en nombre peut-être limité ?
J'aurais plutôt tendance à penser que si ça fonctionne et si ça nous permet effectivement de décrire le réel et de le prédire, c'est que quand même c'est une propriété du réel. Comprenez, est-ce que la loi de la gravité, c'est une propriété du réel? Parce qu'on pourrait faire le parallèle. Après tout, tous les objets tombent d'une manière différente et se manifestent sous une infinie variation. Et c'est grâce à la science qu'on a pu ramener ça à un principe unique et général, qui est la loi de la gravité. Après, est-ce que cette loi de la gravité, c'est un concept ou est-ce que c'est une propriété du réel? On pourrait dire un peu les deux, mon général. C'est un concept et qui est manifestement proche, ou en tous les cas qui s'approche d'une propriété du réel, et c'est pour ça que c'est un bon concept qui nous permet de le décrire.
D'accord, donc on va reprendre cette discussion tout à l'heure lorsque nous étudierons, nous évoquerons le livre de Bernard Lahir. Maintenant j'arrive à la question que vous avez déjà soulevée, Gisèle Sapiro. Comment les individus y font face aux structures, à supposer que ce concept de structure soit pertinent ? Bourdieu, dont une grande partie de l'œuvre se revendiquait du structuralisme, nous avons aussi vu hier que sur le tard, cette question, il y a quand même eu quelques tournants, utilisait le concept d'habitus. Je me permets quand même de rappeler que le concept d'habitus, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Marcel Mauss. On le trouve notamment dans un texte de 1934 de Marcel Mauss qui s'appelle « Les techniques du corps » où Mauss dit que l'habitus, c'est la manière dont les individus traduisent pour eux une certaine pression sociale, des habitudes, dit-il, et il ajoute, qui varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations, mais qui varient surtout avec les sociétés, les éducations, les convenances et les modes, les prestiges. Il s'agit donc de techniques, et pour le coup, chez Mauss, ça a l'air d'être en nombre illimité. C'est très commode ce concept d'habitus, parce que ça permet de mettre de l'illimité, de la pluralité, de la traduction infinie pour l'individu, alors qu'au départ on a des structures qui semblent rigides, solides, invariantes et en nombre limité. C'est pas un petit peu un truc théorique ?
Alors, d'abord, je veux dire que Mauss, effectivement, a cette phrase sur habitus et il parle des techniques du corps. Il n'est pas le seul à utiliser habitus. Dans la sociologie allemande, c'est très courant. Weber l'utilise. Et il y a aussi Panofsky, c'est pas la sociologie. C'est d'ailleurs à propos de Panofsky que Bourdieu commence à théoriser. C'est dans la postface à Panofsky, et qui est donc plutôt sur les structures de représentation. Et il articule ce que dit Mauss sur les techniques du corps avec la question des structures de représentation. Donc c'est à la fois les structures mentales et les structures corporelles. Ce qui est important pour Bourdieu dans sa critique du structuralisme, c'est justement le corps et comment fonctionnent les individus. L'idée que on parlait de domination masculine, mais c'est pas quelque chose, les hommes ou les femmes n'agissent pas avec l'idée je suis dominant ou je suis dominé. Ils intériorisent ces structures et ils agissent en fonction, mais sans se dire, la plupart des femmes à qui vous poserez la question diraient mais non, moi, je suis pas du tout dominée, en fait. Et c'est ça que Bourdieu décrit comme violence symbolique. Mais là, on en vient à l'habitus, c'est qu'elles ont été éduquées de telle manière que cette domination a été naturalisée, elle leur paraît normale. Elles ont appris à s'effacer devant les hommes, elles ont appris d'ailleurs tout dans l'éducation corporelle des femmes va tant vers l'effacement, le fait de se montrer modeste, de ne pas apparaître de manière saillante et d'être derrière les hommes, de les soutenir, les assister, etc. Voilà. Donc, bon, bah, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On pourrait prendre chez Lévi-Strauss, c'est les systèmes de parenté, mais Bourdieu, ce qu'il critique, c'est justement l'idée ces modèles seraient dans nos têtes. C'est contre la thèse réaliste, hein, qu'il y aurait des règles qui dictent nos comportements. Les règles, on les connaît pas, mais on agit. Alors, chez Bourdieu, la question des structures, elles nous sont inculquées par l'éducation. Là, il est très durkheimien, c'est la socialisation. Oui. On les intériorise sous forme de dispositions. Et là, c'est Piaget, qui est aussi dans cette tradition structuraliste. Hein. On a des dispositions à agir d'une certaine façon. Ces dispositions, elles sont très ancrées et c'est très difficile de les modifier. Donc il y a un habitus primaire qui vient de la socialisation familiale. Il y a ensuite un habitus secondaire qui nous vient de l'école, qui peut modifier le premier habitus. Si on lit Annie Ernaux, on voit très bien comment ce travail s'opère et comment ça crée une sorte de violence à cause de la contradiction entre justement ce qui lui est inculqué à l'école et ce qu'elle a reçu dans sa famille et l'inversion des systèmes de valeurs. Et puis, on a après la socialisation dans les professions qui peut amener autre chose. Mais chaque fois, les expériences antérieures sont les plus déterminantes, elles sont les plus difficiles à déraciner d'une certaine manière. Et ce qui est important, c'est ce système d'écart différentiel, parce qu'on pourrait dire disposition, c'est pas forcément des structures. Or, chez Bourdieu, et c'est en ce sens qu'il est il se revendique pas structuraliste, il a tout de suite, dès 65, critiqué le structuralisme, mais en même temps, parce qu'il vient de la phénoménologie, faut pas l'oublier, donc il était très critique, et en même temps, pour lui, cette rupture objectiviste était très importante pour rompre avec ce sentiment que le monde va de soi, hein, la naturalisation du monde social, et en même temps, il dit, pour comprendre les individus, comment ils fonctionnent, on peut pas s'arrêter, justement, à cet objectif, à cette description des relations objective, de la violence de ces relations objectives, il faut voir comment elles sont justement naturalisées mais transformées sous forme de dispositions. Et ces dispositions, c'est à la fois, j'ai dit structure mentale et structure sociale, donc par exemple, si je reprends l'exemple du tennis, que le tennis soit plus noble entre guillemets que le football, c'est lié au fait que ce sont les classes dominantes qui pratiquent le tennis et que ce sont les classes populaires qui jouent au football. Et c'est l'opposition hiérarchisée qui produit cette signification sociale de noblesse. C'est pas inhérent au tennis. Et ça peut se renverser si le tennis demain se banalise. Eh bien, il sera plus un sport noble. Alors, c'est cette structure de relation, en fait. C'est ça l'apport du structuralisme.
Je profite de votre présence parce que je dois dire à nos auditeurs que Gisèle Sapiro doit s'absenter dans quelques minutes pour aller à un séminaire. Donc je vais vous poser une dernière question. J'aimerais savoir si vous avez, comme d'autres, l'impression qu'a pluralisé, comme le disait Jean-Claude Passeron, les vécus de la domination. Vous venez de dire on les exprime et on les ressent différemment, et le concept d'habitus permet de penser beaucoup de pluralité. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en sciences sociales, on a un savoir, notamment au niveau académique, extrêmement morcelé, parcellaire, chacun son domaine de spécialité, et y aurait-il un manque, alors c'est peut-être pas que en France, hein, vous pouvez me répondre aussi au niveau international, y aurait-il un manque de saisie du social dans sa totalité ?
Je pense qu'on a des grandes théories sociologiques sur l'ensemble qui permettent la saisie du social. Il y a eu des débats sur ces théories. Je pense que la sociologie de Bourdieu, elle reste d'ailleurs assez aujourd'hui le penseur le plus cité au monde, et elle est beaucoup s'en sont emparés pour alors des degrés divers, soit comme un programme de recherche, soit comme parfois des citations un peu superficielles. Mais en tout cas, le programme de recherche, il existe, il s'est développé, en fait on voit des études dans tous les domaines, et ça peut être chez des littéraires qui travaillent sur la littérature, donc c'est bien des théories qui nous permettent de réduire en fait cette question de la diversité. Après, ces théories, elles s'actualisent, elles sont révisées, elles sont confrontées à des situations inédites, et ce qui amène à les développer en fait d'une certaine matière, et c'est ce que on j'essaye de faire. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de. Alors, je suis d'accord avec votre constat de l'hyperspécialisation.
Ah non, on peut pas. Poser une question, hein, j'ai aucun.
Non, non, mais moi, je le constate aussi. C'était constaté dans la discipline sociologique, à l'Association internationale de sociologie. On le voit avec la multiplication des comités de recherche. Et dès 98, le président Emmanuel Wallerstein disait si on continue ce morcellement, on n'arrivera plus à dialoguer. Et c'est vrai que la production du savoir est telle que c'est difficile, en fait, de tout maîtriser.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons ce matin de la notion de structure sociale qui semble revenir sur le devant de la scène, en particulier avec l'ouvrage récent de Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines. Je précise que nous avions adressé une invitation à Bernard Lahire, mais nous allons parler là sans lui, notamment de son travail, mais plus largement du désir peut-être de revenir à une approche plus globale et plus totale du social après un moment de parcellisation. En tout cas, je vous poserai à vous aussi mes deux invités maintenant qui dialoguent ensemble, Philippe Corcuff et Christophe Darmanjat, la question du constat qu'il faut faire. Pour introduire ce problème, je vous propose d'écouter Jean Dieudonné. C'est un mathématicien qui a été membre du groupe Bourbaki, un de ses fondateurs en 1934-35. Et le groupe Bourbaki, d'une certaine façon, a voulu mettre en ordre les connaissances mathématiques. Et le concept d'ailleurs de structure est apparu au sein des maths dans une version Bourbaki. On l'écoute.
Nous sommes arrivés à une époque où il fallait mettre de l'ordre dans les richesses qui avaient été accumulées depuis plus d'un siècle en mathématiques. Et ça nécessitait naturellement une refonte un peu de. Nous n'avons rien inventé de nouveau. Nous sommes simplement mornés à essayer de mettre en ordre les résultats et les principes qui avaient été établis, disons, de 1800 à 1930. C'est à ça que s'est voué le groupe Bourbaki, qui continue d'ailleurs.
C'était une archive du mathématicien Jean Dieudonné dans l'émission Apostrophe sur Antenne 2 en 1987. Alors peut-être que la question se pose aussi pour les sciences sociales, essayer de retrouver un peu du global. Voici l'analyse qui, semble-t-il, a marqué d'ailleurs Bernard Lahire, l'analyse de l'anthropologue Alain Testard en 1991. On l'écoute.
Depuis près de deux siècles que le mot sociologie a été inventé, un savoir considérable a été accumulé sur les structures les plus diverses et les sociétés les plus anciennes. Mais tout savoir n'est pas science, au sens fort de science théorique. Or, de science du social, nous n'apercevons pas une bribe, pas un seul principe général, pas la moindre proposition théorique minimale sur laquelle tomberaient d'accord tous ceux qui étudient le social. Se dénomment-ils historiens, sociologues, anthropologues ? Rien n'est acquis, sinon la certitude de l'échec des disciplines sociales à se constituer en sciences. On a répété à l'envi que les sciences sociales ne pouvaient être des sciences de même statut que les sciences physiques, qu'elles ne parviendraient jamais au même degré de rigueur, que leur raisonnement n'aurait jamais le même caractère contraignant que dans les sciences hypothético-déductives. Sur cette prétendue spécificité des sciences dites humaines, certains philosophes ont pu bâtir leur système, cherchant ainsi à fonder je ne sais quelle dignité humaine. D'autres ont pu déplorer cet état de fait, mais l'idée c'est bien vite imposé qu'à côté des sciences dites dures, dont le succès n'était pas contestable, il y en avait d'autres que la politesse s'empêchait d'appeler molles, mais que l'on ne pouvait s'empêcher de tenir comme des sciences au rabais.
Est-ce pour que les sciences sociales n'apparaissent pas comme des sciences au rabais, trop molles, Philippe Corcuff, qu'il faut, comme le dit Testard, retrouver un certain sens du global, de la société comme un tout? Et est-ce que c'est cela qui est à l'œuvre en ce moment lorsqu'on ressuscite le concept de structure sociale comme le fait Bernard Lahire?
Alors, tant Alain Testard que Bernard Lahire réagissent à un problème important des sciences sociales, c'est l'hyperspécialisation, l'émiettement par l'hyperspécialisation des savoirs, et qui peut être doublé parfois par le discours postmoderniste qui va valoriser l'émiettement. Par rapport à ça, ils reviennent sur un acquis, d'une certaine façon, de la philosophie critique et des sciences sociales, qui était d'avoir, d'une certaine façon, brisé la totalité. Bon. Et avec des notions associées aussi de transcendance, de loi générale, d'invariant, de fondement. Bon. Ils réagissent à un vrai problème, mais ils s'inscrivent encore dans ce que j'appelle la nostalgie de la totalité. C'est-à-dire une façon de rechercher la totalité sans complètement l'assumer, qui est une sorte d'attente du paradis perdu,
oui.
Et qui prend la forme de constructions héroïques, de personnes simplement, et qui ne correspondent pas à l'état, disons, collectif des sciences sociales, la personne Alain Testard, la personne Bernard Lahir, ça correspond pas du tout à l'état collectif, disons, de la recherche en sciences sociales. Donc cette nostalgie de la totalité, elle répond à un vrai problème, l'évietement, mais je pense qu'il y a sans doute d'autres façons de penser la réponse à la totalité. Moi j'appelle ça un global pluriel, c'est-à-dire une globalisation qui ne prétend pas épuiser le tout, qui ne prétend pas encadrer par avance dans des systèmes préconçus les mouvements de l'historicité et la pluralité, donc qui est beaucoup plus modeste dans sa forme, mais qui essaye d'éviter cette polarisation entre quelques nostalgiques du tout, qui ont une dimension un peu héroïque, et puis le mouvement général qui apparaît presque inéluctable d'hyperspécialisation, d'émiettement.
Philippe Corcuff, est-ce que ça, ce que vous dites signifierait que les grands concepts qu'on avait, Gisèle Sapiro disait, bon, on avait comme ça quelque chose qui évoquait encore des structures, mais grâce, par exemple, à la notion d'habitus, des traductions individuelles infinies, donc la pluralité, elle était plutôt dans les traductions individuelles que dans les concepts structurants de la sociologie. Est-ce que ce que vous avez évoqué vous-même tout à l'heure à propos de Jean-Claude Passeron, l'idée que, bon, bah, il y a de la domination, mais après, tout n'est pas pareil, il y a de la variété, il y a de l'analogie et pas de l'identique, ça semblait bien marcher. Est-ce qu'à un moment, ça n'a plus marché et les sciences sociales se sont émiettées alors que ce n'était pas le projet de Passeron ?
Les sciences sociales se sont émiettées, mais de manière non intentionnelle. C'est-à-dire que le mouvement de division du travail, qui a commencé à être analysé par Durkheim, par Weber, par Marx, il est dans une logique, disons, automatique presque, et qui conduit à l'émiettement. Et après, il y a simplement quelques discours postmodernistes qui viennent revendiquer l'émiettement comme quelque chose de positif.
Ah.
Donc, c'est un mouvement qui semble apparemment inéluctable.
Et
donc,
spécialisation au fond. Chacun, oui, est devenu spécialiste de quelque chose, d'un corpus, quoi.
Voilà. Et donc, on a eu un découpage, on a eu de moins en moins de transversalité entre les problèmes. Par exemple, en sociologie, on va s'intéresser à l'école, mais est-ce que on peut s'intéresser à l'école en s'intéressant à l'école? Est-ce que c'est pas intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans le travail, et donc créer des transversalités? Donc c'est ça qui est peu à peu perdu, ces transversalités, donc une forme de globalisation. Mais la réponse me semble pas être la totalisation, parce que quand on parle d'habitus, quand on parle de révolution, d'État, ce sont des concepts qui ont un niveau de globalisation, mais qui ne prétendent pas épuiser le tout, et qui sont simplement des outils méthodologiques pour créer un cadre de comparaison, d'intelligibilité sur le réel.
Mm-hmm.
Le danger, comme l'a d'ailleurs montré Bourdieu, et comme un adversaire de Bourdieu l'a montré aussi, sont d'accord là-dessus, Raymond Boudon et Bourdieu, ils parlent de réalisme de l'intelligible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on confond les propriétés du réel et les propriétés des concepts. Or, il y a bien un réel indépendant de nous, mais la science, les sciences sociales et les autres sciences aussi, passent par une médiation conceptuelle et passent notamment par le langage naturel, comme le dit Passeron. Et donc, il y a des effets de cette médiation. C'est ça qui crée, disons, l'ouverture, disons, pluraliste des sciences sociales, qui n'empêche pas la globalisation, qui n'empêche pas la rigueur, qui n'est pas un relativisme, contrairement à ce que dit et caricature par rapport à Passeron Bernard Lahir, ce n'est pas du relativisme, mais c'est une autre voie. Donc, il me semble que c'est évidemment par rapport à aux actes héroïques tels que ceux de Testard et de Lahire et au mouvement général que, d'ailleurs, il me semble, les actes héroïques de Testard et de Lahire ne pourront pas arrêter. Il y a eu aussi, dans le même sens, la figure de Edgar Morin qui a représenté une tentative de ce type, de cette nostalgie de la totalité. Je pense que prendre conscience de l'émiettement, de la spécialisation, peut nous amener à une vision moins héroïque, plus humble, hein, plus localisée de penser les transversalités, la globalisation.
Donc l'émiettement, si je vous ai bien suivi, n'était pas intentionnel. Il est quand même apparu avec une hyper spécialisation des sociologues sur certains terrains. Et la résolution de ce problème, hélas, passe par des voies où on réhabilite une espèce de grande structure des invariants qui serait là dans la réalité. On régresse un peu vers quelque chose que, pertinemment, dites-vous, Philippe Corcus, des gens comme Passeron avaient récusé. Alors, je crois que c'est pas du tout votre avis, Christophe Darmanjat. On fait bien de revenir aux bons gros invariants dans la réalité, pas seulement dans les concepts. Et finalement, vous êtes très sympathisant j'ai mal compris, de la démarche de Bernard Lahire.
Oui, bon, gros, invariant, je ne sais pas s'ils sont forcément bons et gros. Et encore une fois, je pense que les invariants sont aussi un moyen de penser les variations. Enfin, je veux dire qu'il faut tenir les deux bouts du bâton. Je vais reparler là de cette affaire de division du travail scientifique. Il y a quand même dans toutes les sciences une explosion de la spécialisation. C'est pas propre aux sciences sociales. Que vous preniez la biologie, la physique, etc. Bah, au fur et à mesure que la science avance, qu'il y a de plus en plus de scientifiques dans le monde, les gens sont de plus en plus spécialisés. Ça n'empêche pas que dans les sciences naturelles, les gens soient d'accord pour penser leurs travaux spécialisés au sein d'un corpus commun. C'est pas parce qu'il y a des tas de gens qui, en biologie, travaillent sur des tas d'espèces différentes et là, qu'on remet en cause le cadre général du darwinisme. Le problème des sciences sociales, c'est pas en soi la spécialisation. Elle est normale au fur et à mesure que la science avance. Le problème, c'est qu'on soit toujours pas parvenu à se mettre d'accord. Philippe Corcuff a parlé du paradis perdu, mais le problème, c'est que le paradis, on l'a pas perdu parce qu'on l'a jamais atteint. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un cadre commun. Testard disait, par exemple, que c'est quand même un truc un peu fou qu'après 200 ans de sciences sociales, on n'ait toujours pas une classification des sociétés humaines qui fasse, un minimum consensus et dont on puisse se servir, ne serait-ce que pour étudier ensuite la préhistoire.
Mais c'est peut-être passionnant qu'il n'y ait pas consensus, justement.
Bah, c'est passionnant, mais c'est quand même un problème, parce que, justement, dans une science, encore une fois, si on veut avoir une petite chance d'avancer, de pouvoir dialoguer, de se mettre d'accord et de pouvoir avancer plus loin, quitte à remettre en cause, évidemment, l'état actuel du savoir, bah, il faut œuvrer quand même, au moins essayer de se poser la question et de la résoudre. Alors, je ne sais pas si c'est héroïque, mais en tous les cas, il me semble, moi, que c'est la démarche scientifique de celle de Testard ou de Lahire ou d'autres, d'essayer de se dire... ces petits morceaux de Bourbaki, comme vous le disiez pour les mathématiques, oui. Ces petits morceaux épars, etc.
Je rappelle qu'ils se sont autodissous. Ils ont enterré ce personnage fictif de Nicolas Bourbaki, qu'un groupe avait inventé en 1968.
Même, une fois le travail largement accompli. Et aujourd'hui encore, les mathématiciens ont hérité du travail et des avancées conceptuelles justement faites par Bourbaki. Et je pense qu'en termes de... Quand on étudie les sociétés, il va falloir à un moment donné s'attaquer à cette question. Encore une fois, c'est pas réductionniste, c'est pas exactement comme forger la catégorie de mammifères n'empêche pas de penser la variété des espèces animales, des êtres humains, etc. Mais elle permet au contraire de penser cette variété.
Qu'en pensez-vous, Philippe Corcuff, de cette démarche qui défend l'idée qu'il faut retrouver dans la réalité des grandes structures invariantes ?
Oui, mais je pense que je reviens sur cette idée de cadre général. Passeron n'est pas hostile à l'idée de transversalité, de repères, notamment dans la méthode. Seulement, il y a l'usage du mot scientifique qui vient d'être fait, ou de celui de Bernard Lahire, qui voudrait que d'une certaine façon il y ait qu'une voie de la science. Qui est une modalité simplement. On peut considérer que les sciences sociales ont quelque chose d'important du côté des sciences de la matière et du vivant. Et donc, elle participe à ce que, d'ailleurs, Marc Joly a appelé une révolution sociologique. C'est ce côté d'emprunt aux sciences classiques. Mais l'historien de la sociologie, Wolf Le Pénis, dans son livre sur les trois cultures, a bien montré que les sciences sociales étaient une hybridation et une tension, dans leur naissance même, entre les sciences de la nature et la littérature. Oui. Parce que la littérature, elle est aussi prise dans le langage naturel.
Elle pense sociale aussi, oui.
Voilà. Elle est prise aussi dans le langage naturel, et toutes les sciences utilisent le langage naturel, sauf les formes les plus extrêmes de langage logico-mathématique, mais elles sont plus ou moins dépendantes du langage naturel. Et les sciences sociales sont particulièrement dépendantes du langage naturel. C'est ce qui fait que pour Passeron, disons, il y a un caractère, disons, plus analogique, disons, au concept de la sociologie, à cause de cette caractéristique. Donc, il n'y a pas la science, mais les sciences. Mmh. Le problème du livre de Bernard Lahire, c'est de considérer que la masse des sciences sociales ne sont plus vraiment des sciences, parce que, dit-il, elles ont oublié le réel, elles sont pas dans le profond, elles sont pas dans le fondamental. On a quand même toute une série de rhétoriques que Roland Barthes aurait appelé des effets de réalité, qui visent à mettre hors de la réalité et de la science et de la vérité la plupart des sociologues, des chercheurs en sciences sociales, et qui met, disons, Bernard Lahire du côté de la vraie science, avec une forme quand même extrêmement puissante. Je cite, « J'ai de même conscience de rééditer, quoiqu'à un niveau plus général, le geste accompli par Durkheim, donc plus fort que Durkheim. » Donc, il me semble que à un niveau, disons, de mégalomanie de ce type, moi, je préfère la mégalo de la fille mentalo de Eddie Mitchell. C'est-à-dire, elle explore les fragilités humaines. Tandis que là, on a quelque chose qui est habituel dans les sciences sociales et dans le travail intellectuel. Hein, c'est les nains qui s'appuient sur des épaules de géants. Et puis finalement, on donne des coups de latte aux géants sur lesquels on est assis, parce qu'on s'est monté un peu plus haut. Et c'est un peu malheureusement ce que fait Bernard Lahire avec Jean-Claude Passeron, parce qu'il oublie de dire dans son livre qu'il a fait une grande partie de sa carrière académique avec le label de la sociologie de Passeron. Il le dit pas dans son livre. Et il passe une grande partie du temps à essayer de démonter et à caricaturer Jean-Claude Passeron. Donc là, il me semble que la nostalgie de la totalité associée à la mégalo, c'est pas exactement ce dont ont besoin les sciences sociales pour créer des transversalités, des formes de globalisation dans le registre propre des sciences sociales, qui sont cette hybridation, comme le disait Le Pénis, entre les sciences de la nature et la littérature.
Alors, il y a encore un enjeu chez Bernard Lahire, qui est de resituer les lois de l'évolution humaine dans les lois de la nature, et notamment dans les lois qui régulent l'évolution des animaux. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on parle pour terminer de ce problème-là.
Moi, ce que je dis, et qu'au fond, les éthologues disent, c'est que le social, il existe autant chez les animaux que chez nous, donc c'est pas une question biologique. Alors, il se trouve que les éthologues sont formés en biologie et pas en sciences sociales, ce qui est un mystère au fond, hein, puisqu'ils travaillent, ils travaillent pas sur la cellule, ils travaillent pas sur des gènes, ils travaillent pas sur de la microbiologie, ils travaillent au niveau de la structuration sociale et des comportements sociaux des espèces qu'ils étudient. Donc ce sont des sociologues des espèces non humaines. De ce point de vue-là, il n'y a pas de biologisation. Au contraire, je sociologise des choses qu'on a tendance à appeler biologiques. Quand on pense aux animaux non humains, on a l'impression que c'est forcément la nature. Eux, c'est la nature, et nous, c'est la culture. Mais non, eux, c'est le social. Et en partie, c'est aussi des phénomènes culturels qu'on a longtemps négligés. Donc en fait, c'est pas une biologisation du social, c'est une sociologisation de choses qu'on a longtemps considérées comme purement biologiques. Non, il y a des lois sociales qui structurent aussi la vie des groupes d'espèces non humaines. Et ça, il faut s'habituer en fait à reconsidérer nos catégories. Voilà, nature-culture, ça fonctionne pas.
Alors Christophe Darmanjat, vous qui êtes sympathisant de la démarche de Bernard Lahire, là on l'entend dire qu'il faut socialiser le biologique, voir qu'il y a du social dans le biologique. Je me permets là aussi, surtout presque en fin de semaine, sur cette question de comment la société pèse sur les individus, de préciser que beaucoup de gens ont dit cela, à commencer par Marcel Mauss, que j'évoquais tout à l'heure, qui disait que, justement, par l'habitus du social vient toucher nos corps, imprégner nos corps, et donc finalement marquer le biologique lui-même. Donc ça n'est pas vraiment neuf. Ce qui est neuf, c'est l'idée de saisir comme une totalité, dans un évolutionnisme, chez Bernard Lahire, Les humains et les animaux.
Alors déjà, moi je l'ai pas du tout ressenti. Enfin, je sais pas si on tout à l'heure j'étais un petit peu gêné par la tonalité de la discussion parce que soit on discute idées, soit on fait des attaques à hominem. Mais là, c'était
moi. Non, on discute du livre de Bernard Lahire. Oui, j'ai pas eu l'impression que Philippe Corcus faisait une attaque à hominem. Il attaquait en effet le livre.
Quand vous dites
sur des
de quelqu'un qu'il est mégalomane, quand même. Bon, voilà. Alors par ailleurs, sur le fond.
Oui, vous allez répondre. Vous inquiétez pas.
Philippe. Sur le fond, je pense que là aussi, Lahire ne prétend pas révolutionner un certain nombre de choses et être le premier à les dire. Il dit simplement que pour un certain nombre de raisons, et on a privilégié, quand on l'a fait, la comparaison inter-société humaine, oui, au nom du fait que finalement, seul l'homme était un animal social. Et son idée, je veux dire, il me semble fondatrice, qui est une idée simple, mais qui me semble une idée extrêmement féconde, c'est de dire que, bah non, l'homme est, on peut dire, le seul animal significativement culturel, mais il n'est pas du tout le seul animal social, et il y a des tas d'animaux qui vivent en société, et que donc si on fait des comparaisons pour justement comprendre à la fois les variations et les invariants, eh ben, il faut étendre cette comparaison aux sociétés animales. Et c'est ce qu'il essaye de faire dans ce livre, qui est évidemment, à mon avis, plus un ouvrage, disons, programmatique, oui, que quelque chose qui prétend, clore une bonne fois pour toutes les débats scientifiques.
Philippe Corcus, vous pouvez répondre. Hélas, après, nous n'aurons plus beaucoup de temps.
Oui, il n'y a pas d'attaque ad hominem. Je cite un passage du livre. « J'ai de même conscience de rééditer, quoiqu'à un niveau plus général, le geste accompli par Durkheim. » Donc, c'est plus que Durkheim, parce que c'est plus général, j'ai introduit une rupture. Bon, donc, c'est ça que j'appelle mégalomanie. Il n'y a aucune attaque hominem, c'est vraiment une analyse de ce qui est proposé et qui va avec la nostalgie de la totalité. Les sciences sociales n'ont pas forcément remis en cause le rapport à la biologie. Un grand chercheur en sciences de l'éducation, Bernard Charlot, avait bien mis en évidence que le passage de nature humaine à condition humaine. Condition humaine, c'est reconnaître qu'il y a des contraintes biologiques. Mais les sciences sociales vont voir les humains sous l'angle socio-historique. Ça ne veut pas dire qu'ils nient ce qui existe ailleurs, mais ils ne cherchent pas à construire un grand tout qui, disons, ferait un système qui associerait les constats de la sociologie et de la biologie. Il peut y avoir un dialogue avec la biologie. La biologie peut fournir des concepts. À un moment donné, la notion de système a joué un rôle dans les sciences sociales. Elle a joué aussi un rôle en biologie. Elle a une dimension analogique. Elle fait voir des choses, mais en même temps, elle limite le regard. Et donc, on peut tout à fait envisager ces possibilités. C'est de la perspective de reconstituer le grand tout qui me semble, disons, contestable.
Je vous laisse répondre et ce sera le dernier mot, Christophe Darmanja.
Oui, alors moi, je voudrais répondre en bouclant finalement sur le début de l'émission et sur le structuralisme, parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que finalement le structuralisme n'est pas le seul courant de pensée à avoir cherché des structures, hein, et que on peut être critique de l'œuvre du structuralisme dans une mesure ou dans une autre, tout en pensant que le but de la science, toute science, je dirais, pas seulement la science des sociétés, c'est de trouver des structures. Voilà. Et il me semble que le livre de Lahire essaye d'apporter sa pierre à cet édifice. Et donc, il est, si l'on veut, structuraliste au sens où il cherche des structures, sans pour autant forcément s'inscrire dans les pas de Lévi-Strauss et d'un certain nombre de penseurs.
Eh bien, je vous remercie tous les trois. Gisèle Sapiro a dû s'absenter pour aller à un séminaire. Merci Philippe Corcuff et Christophe Darmanja d'être restés avec nous tout du long pour évoquer l'état des sciences sociales en ce moment. Peut-être un désir, une nostalgie de totalité, comme l'a dit Philippe Corcuff. Peut-être une inventivité nouvelle qui reprend le concept de structure sociale. C'est ce que vous défendiez, Christophe Darmanja, dans le sillage du livre récent de Bernard Lahire. Les références de vos travaux, je parle des invités, figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de l'abstrait et du concret. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'abstraction fait-elle peur? Dans nos sociétés, les êtres qui vivent dans un monde abstrait sont à la fois comiques et effrayants. Il y a toujours cette figure du savant Cosinus qui, par son nom même, inventé par des dessinateurs du début du XXe siècle, montre le ridicule de vivre tout le temps dans l'abstraction. C'est l'image aussi de celui qui, dans ses idées, dans ses pensées, dans ses calculs, oublie le monde et glisse sur une peau de banane. L'abstraction est d'abord ridicule. C'est un risque de se couper de la vie, comme l'avait bien montré Bergson dans Le Rire. Celui qui vit dans l'abstraction a oublié que les choses concrètes vont se rappeler à lui. Et il y a des rêveurs parmi les abstraits. Les êtres abstraits sont ceux qui ont extrait du monde une dimension et une seule, et qui vivent dans ce monde. Alors, cette dimension n'est pas forcément totalement fictive, mais le fait de la prendre unilatéralement, de l'extraire, d'en faire la seule réalité, aura évidemment quelque chose de fictif et même de dangereux. C'est ici que le ridicule de l'abstraction peut devenir un risque réel, un risque mortel, même pour les humains. Oui, vivre dans une abstraction sans se confronter constamment à l'épreuve du réel peut amener à des destructions terribles, et pas seulement celle du savant qui glisse sur une peau de banane, mais celle des concepteurs de principes qui vivent dans un monde irréel et qui se heurte ensuite au retour de ce dont les principes ont pourtant été extraits, par exemple la liberté et l'égalité, qui sont issus de la violence humaine et qui certes doivent tout le temps s'y confronter à nouveau. De même, peut-on reprocher parfois à un certain art hyper abstrait de ne pas seulement explorer une dimension du visible, une dimension de la couleur, du trait ou du dessin, mais de ne jamais y retrouver notre expérience la plus concrète. Pourtant, le réalisme de l'abstraction est parfois saisissant dans les tableaux d'un Rothko qui ont bien sûr quelque chose d'abstrait. Il a abstrait du monde une expérience absolue de la couleur. Quoi de plus concret que justement cette expérience de l'abstraction? Et on retrouve aujourd'hui cette idée que l'abstraction peut et doit être une expérience concrète et non pas nous couper simplement du monde pour en explorer une des dimensions, mais nous le faire vivre en entier à partir d'un travail de l'abstraction. L'abstraction nous fait peur, l'abstraction fait peur aux enfants, l'abstraction, il ne faut pas en avoir peur, l'idée d'accéder à une dimension du réel pour lui-même, de jouer avec, de la manipuler provisoirement pour elle-même, en revenant au réel, en montrant que l'esprit humain peut en effet faire abstraction des choses, abstraction de sa peur aussi, peut se libérer par l'abstraction à condition de ne pas se laisser piéger par cette unilatéralité d'une dimension extraite ou abstraite du réel, à condition de revenir constamment au concret. Oui, l'abstraction peut être et même doit être un élément de la vie humaine. Dans sa philosophie politique, le théoricien américain John Rawls disait assez clairement, après son grand livre, c'était dans un article postérieur à la théorie de la justice, il disait clairement, avec des gens qui ne peuvent pas se considérer comme des citoyens libres et égaux, comment pouvons-nous même discuter? L'abstraction ne doit pas nous faire peur, elle est au contraire parfois la condition non seulement d'un monde concret, mais d'un monde partagé, d'un monde reconnu et reconnu, d'un monde juste, d'un monde concret où la dimension de la justice entre les humains aura toute sa place.
Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur le site radiofrance.com. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Merci également aux équipes techniques de Radio France à Lyon pour le duplex. Cette émission a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.